Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous étudions l'Apocalypse verset par verset. Et nous avons vu au premier chapitre les introductions. Ce mot Apocalypse en français qui est en fait pas très bien traduit, je trouve que le mieux aurait été de mettre révélation. Et nous avons vu que Dieu nous révèle quelque chose de particulier. C'est-à-dire amène une connaissance à son peuple qui était cachée,
qui
se révèle pleinement. Il enlève le voile sur la fin des temps. Même si dans ce dernier livre de la parole de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui ont été reprises. Qui sont des compléments d'autres prophéties qui ont été données dans la parole de Dieu. Donc nous avons vu dans le chapitre 1, après avoir fait cette salutation, Jean nous donne la vision qu'il a eue de Jésus glorifié. Ensuite, nous avons étudié chapitre 2 et chapitre 3 où il y a justement le message aux sept églises. Et là, on parle de l'église. Et ces sept messages nous apprennent beaucoup de choses sur les différentes conditions de l'église de Dieu. Et aussi ce que Dieu peut nous reprocher.
Vous
voyez, la parole de Dieu nous éclaire. C'est ça qui est formidable avec la parole de Dieu. C'est qu'elle nous amène la connaissance. Elle nous montre. C'est un miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir. Et c'est ça qui est très bien. C'est pour ça que cette parole est très précieuse. Parce qu'elle nous permet de nous voir tel qu'on est. Individuellement. Aussi collectivement en tant qu'église. En général, pour l'église de Dieu, avec un grand œil. Et aussi de voir le monde avec les yeux de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la parole de Dieu. Elle vous donne les yeux de Dieu. Pour que vous puissiez voir comme Dieu voit. Que vous puissiez penser comme Dieu pense. Parler comme Dieu parle. Et accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez. Ensuite, nous avons vu, d'un seul coup, tout va changer. La première vision est passée. Jésus disparaît et on a étudié le chapitre 4. Et nous avons vu cette scène absolument extraordinaire d'une description fabuleuse du troisième ciel, du trône de Dieu, tout ce qui entoure le trône de Dieu, des quatre chérubins, des 24 anciens, et puis quand on complète avec d'autres passages de la parole de Dieu, nous savons que le trône est au milieu de la Jérusalem céleste, où il y a des routes pavées d'or, où il y a nos maisons là-haut, il y a la place que Dieu t'a préparée. Donc nous avons étudié tout cela. Et là, le Seigneur va révéler des choses à Jean absolument incroyables. Après cette scène céleste du chapitre 4, nous avons vu au chapitre 5, la Bible commence à nous parler d'un livre avec sept sceaux, scellé de sept sceaux. Et là, nous avons commencé à regarder un petit peu ce que ça voulait dire. C'est toute une révélation que Dieu va donner très précisément. Et à partir du chapitre 5, on va chercher quelqu'un qui est digne d'ouvrir ce livre. Et c'est là où nous avons vu cette scène céleste encore. Il
n'y
a personne qui est digne de déceler le livre. D'ouvrir, donc d'ouvrir le livre et d'enlever les sceaux. Ce qui est le symbole de quelque chose qui va se produire, ce qui va se produire dans le livre, dans ce qui est écrit dans ce livre. Et nous avons vu bien sûr que c'est Jésus, l'agneau. Le lion de la tribu de Juda, on a vu tout cela, toutes ces expressions, qui était digne d'ouvrir, d'ouvrir le livre. Et là, évidemment, il y a toute une approbation de l'univers entier, parce que Christ a vaincu, et c'est là où Jésus va ouvrir ce livre. Ça sera l'objet du chapitre 6. Mais il faut comprendre que là, on ne voit plus l'Église. Et il faut comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Donc c'est là où nous avons dû étudier certains piliers. Puisque si l'Église n'est plus là, c'est que l'enlèvement s'est produit.
Et
nous avons expliqué ce que c'est que l'enlèvement. Ça fait partie d'un des premiers piliers pour comprendre la suite de l'Apocalypse. Comment les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Les vivants vont être transformés. On va être tous réunis donc, dans les airs avec le Seigneur. C'est le premier retour de Christ. Et on va revenir donc au troisième ciel. Et là, nous avons vu que l'enlèvement, c'est le déclenchement à nouveau de l'horloge prophétique pour Israël. Parce que nous avons aussi introduit une autre notion qui est les 70 semaines d'année de Daniel. Et je vous rappelle que l'Apocalypse n'est pas un livre de catastrophe, parce que là on va rentrer dans les catastrophes, dans les jugements de Dieu. On va rentrer dans la tribulation. Mais la tribulation n'est pas l'objet numéro un de pourquoi l'Apocalypse a été écrit. L'Apocalypse a été écrit pour nous montrer la victoire finale, la restauration et l'instauration du royaume de Dieu. Christ, roi des rois, qui va régner sur sa propriété, la terre, qui sera complètement recréé dans sa surface. Il aura récupéré la gestion des systèmes de ce monde. Et il régnera avec qui? Avec vous et moi. Et ça, c'est l'objet de l'Apocalypse. Je vous rappelle et je vous le répéterai tout le temps, parce que je ne veux pas que vous vous concentriez seulement sur les catastrophes. On va voir les jugements, on va voir différentes choses qui vont se
passer.
Mais je ne veux pas que vous vous focalisiez sur ça. Parce que c'est vraiment ce piège dans lequel les gens tombent, que ce soit d'ailleurs beaucoup de prédicateurs, beaucoup de choses que vous verrez, que ce soit sur Internet ou des livres écrits sur l'Apocalypse, on ne vous raconte que les histoires de l'Antichrist, les histoires du gouvernement mondial, la marque de la bête, on vous parle du faux prophète, on vous parle de tout ça, et les gens tremblent, les chrétiens ne savent plus où ils en sont après. Ça, c'est vrai que ça va se produire. Et on va voir pourquoi ça va se produire. Mais nous avons vu d'abord que nous ne serons plus là. Et d'autre part, ce n'est pas l'objectif de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est de nous montrer comment Dieu va récupérer la gestion de sa propriété. Et comment il va régner sur sa propriété. Dans les conditions particulières qu'il avait prévues d'avance. Et dans lesquelles Adam et Ève ont complètement chuté. Ils ont perdu le royaume et Jésus est venu pour restaurer le royaume et après il va l'instaurer. Il
ne
faut jamais oublier ça. Donc ça, c'était quelque chose que nous avions vu, parce que si on ne comprend pas les 70 semaines d'année de Daniel,
qu'il
y a entre la 69e et la 70e semaine d'année, il y a le temps de l'Église, et quand le Messie Messie est retranché, le temps prophétique des 70 semaines d'année de Daniel s'arrête. Il y a le temps de l'Église, la dispensation de l'Église, la dispensation du mystère, vous vous rappelez dans Éphésiens 3, dans laquelle nous sommes actuellement. Mais l'enlèvement de l'Église mettra un terme à cette dispensation. Et c'est là où il reste les sept ans, donc une semaine d'année, qui doivent s'accomplir. Et ça s'appelle la tribulation. Et c'est exactement là, c'est dans cela que nous rentrons maintenant. C'est pour ça que nous allons étudier aussi Matthieu 24. Nous reverrons aussi Daniel, chapitre 7 entre autres, chapitre 9 aussi. On parlera aussi du chapitre 12. Et on va recouper tout ce que la Bible nous enseigne. Mais la grande majorité des détails sur ces 7 ans de tribulation, avant que Jésus démolisse les systèmes de ce monde, puisque je vous rappelle que dans Daniel 2, la Bible est très claire. Daniel a vu ces 4 empires qui se succédaient. Le dernier empire, l'empire romain, qui va se diviser en deux. L'histoire de l'empire romain nous le montre. Et qui se reconstituera bien sûr. Et où il y aura les 10 orteils, les 10 nations, qui chercheront à faire alliance. Et évidemment, il y a une nation qui va écraser les autres. Et c'est de là où l'Antichrist sortira. Donc les schémas sont assez simples. À partir du moment où on comprend. Et aussi où on fait des résumés. Parce que je fais des résumés parce que sinon ça devient trop compliqué. C'est pas très compliqué. On n'a pas besoin de connaître tout en détail de A jusqu'à Z. Mais on a surtout besoin de comprendre les grandes lignes. Malheureusement, dans les enseignements sur la fin des temps, souvent les prédicateurs n'insistent pas suffisamment sur les grandes lignes. Ce qui fait que les chrétiens se retrouvent à discuter de trucs qui n'ont plus aucun sens. Donc nous avons vu que pendant qu'il y aura la tribulation, nous allons commencer à étudier maintenant,
eh
bien nous savons qu'il y aura le tribunal de Christ. Et vous avez compris que vous n'avez pas besoin d'avoir peur du tribunal de Christ. Parce que de toute façon, le tribunal de Christ, c'est un tribunal de récompense. Le salut est gratuit. La position que tu auras dans le millénium pour régner avec Jésus. Et dans l'éternité. Pour régner avec lui pour l'éternité. Ta position dépendra
de ce
que tu auras fait dans ton corps.
Si
tu auras obéi au Seigneur, à sa parole, et à la direction de son Saint-Esprit, c'est-à-dire ta destinée. Et aujourd'hui, chaque jour, tu fais quelque chose pour ta récompense. Ou alors tu ne fais rien. Et ça, c'est ton choix. Et c'est ça qui doit te motiver pour prêcher l'Évangile. Pour voir les âmes venir à Jésus. Sache que tu auras une récompense pour ce que tu as fait. À chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, nous créditons notre compte de récompense. Alors maintenant, nous allons aborder le chapitre 6. Et là, après avoir eu ces fondations, nous allons voir que l'agneau, donc Jésus, qui a reçu du Père le livre, il va ouvrir les sceaux. Et là, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va commencer à lire Apocalypse, chapitre 6, verset 1. Et puis, nous allons lire jusqu'au verset 16, donc jusqu'au bout. Et après, on va regarder les passages parallèles et on va commencer à décortiquer tout ça. Il est dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Alors, je vous rappelle, ce sont les chérubins qui gardent l'intégrité du trône de Dieu. Nous l'avons étudié. Qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens, l'un des quatre chérubins. Je regardais, voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Verset 3, quand il ouvrit le second sceau, là on parle du deuxième sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Donc le second chérubin va parler, il lui dit « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants, donc des quatre chérubins encore, une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Verset 12, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, regardez bien ici, ils disaient, c'est eux qui parlent ici, ces gens qui sont en train de subir tout ça, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Alors quand nous lisons cela, nous voyons des catastrophes et des catastrophes et des catastrophes. Et nous allons étudier au fur et à mesure ce que signifie l'ouverture de ces sceaux. Alors, on ne peut pas tout lire parce qu'il faudrait lire plein de chapitres qui se succèdent. C'est pour ça que j'essaye vraiment d'y aller étape après étape. Pour pas que ça paraisse trop complexe. Et non plus qu'on ne se noie pas dans les détails. Là, dans un chapitre, vous allez avoir les six premiers sceaux. Et nous allons en parler. Donc on voit ici des choses qui vont se produire sur cette terre. Nous allons en parler dans quelques minutes. On verra qu'après au chapitre 7, il va y avoir une parenthèse sur ceux qui vont être sauvés pendant la tribulation. Et après, il va y avoir l'ouverture du septième sceau. Mais le septième sceau va être beaucoup plus complexe dans les jugements. Pour le septième sceau, il va y avoir sept trompettes du jugement de Dieu. Donc on a les six premiers sceaux dans le chapitre que nous avons lu. Après il va y avoir une parenthèse sur les gens qui vont être sauvés pendant la tribulation. Et après il va y avoir le septième sceau, mais le septième sceau est fait de sept autres jugements. Et après, d'un seul coup, la Bible va nous parler de tout un tas de choses qui vont se produire.
Du
gouvernement mondial qui va se monter, des nations qui vont se battre, de l'antichrist, du faux prophète, de la bête, etc. etc. Donc toutes sortes de choses dont on a entendu parler à droite et à gauche, dont on va bien sûr parler au fur et à mesure. Et puis il y a cette montée en puissance des puissances sataniques. Et nous allons étudier pourquoi tout cela. Parce que c'est pour ça qu'il faut du recul. Vous savez, quand vous étudiez l'Apocalypse à la fin des temps, il faut aller dans certains détails, mais d'un seul coup, il faut reculer, se dire, on est où là?
Sinon,
comme je vous dis, on se perd tellement dans les détails qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on va.
Il va y avoir
tellement de choses sur cette terre. L'antichrist qui va prendre le pouvoir d'un gouvernement mondial, qui va créer, et on verra comment. Et il va vraiment être contre Jérusalem, il va se retourner contre Israël,
faire
vivre des horreurs à Israël. Et juste à la fin, Dieu va envoyer sept coupes, les sept dernières coupes de la colère de Dieu. Et là, ça va être les jugements finaux que Dieu va envoyer sur la terre. En fait, vous allez avoir une montée en puissance des jugements de Dieu. Contre les hommes et après pour faire courber tous les systèmes de ce monde. C'est l'objectif ici, qu'on soit bien d'accord. L'objectif de tout ce que nous allons étudier ici, c'est qu'à la fin de la tribulation, les systèmes de ce monde, la statue de Daniel chapitre 2, qui nous montrait les systèmes de ce monde, vont être détruits par la petite pierre qui se détache de nulle part, entre guillemets, et qui devient une grande montagne qui remplit toute la terre et qui domine la terre. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Entre temps, il va se passer des événements que nous allons étudier et nous verrons qu'est-ce qui va se produire, et plus ça va chauffer. D'une part, Dieu va envoyer ses jugements, les hommes vont réagir d'une certaine façon, nous verrons, il va y avoir deux réactions. Mais aussi, le diable va commencer à savoir qu'il a peu de temps. Donc c'est là où il va faire ce gouvernement mondial anti-Dieu, en essayant de détruire le plus possible. C'est là où Dieu va se lever une dernière fois. Et là, il va frapper tellement fort que ça sera la fin du temps des nations. C'est là où les systèmes de ce monde vont être détruits, parce que Jésus reviendra, son deuxième retour, et là, ça sera l'entrée dans le millénium. Et c'est lui qui va venir régner à Jérusalem. Mais la Bible va nous donner dans l'Apocalypse de grands compléments que Daniel, de certaines choses que Daniel nous avait données, qu'il avait eu comme révélation, et dont Jésus va parler dans Matthieu 24. Alors, ce que je vais faire express assez volontaire, je vais commencer à vous montrer certains sceaux, et on va étudier ces sceaux. Et après, on va revenir sur la globalité de la tribulation et on va parler de Matthieu 24 pour que vous puissiez comprendre tous ces contextes dans lesquels ça a été écrit et ça nous est révélé. Alors, on va faire exprès d'étudier d'abord quelques sceaux, les premiers sceaux.
Et particulièrement
le premier et le deuxième.
Et
après, on va expliquer un certain nombre de choses. Donc revenons au chapitre 6, verset 1. Et il dit, je regardais. Donc Jean a une vision là encore. Il est dans des successions de visions. Rappelez-vous, l'Apocalypse, c'est des successions de visions. Donc une partie sont chronologiques, c'est-à-dire qu'elles se passent les unes après les autres sur la façon, la chronologie dans laquelle Jean les reçoit. Mais il y a certaines visions qu'il reçoit après d'autres qui sont des parenthèses, des choses pour expliquer un peu plus, ou des parenthèses qui nous racontent ce qui s'est passé il y a très longtemps, nous le verrons, qui complètent aussi d'autres révélations que nous avons sur le monde invisible. Donc voilà ce qu'il est dit, verset 1 et verset 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux, et j'entendis un des quatre êtres vivants, donc je vous rappelle un chérubin, dire comme d'une voix de tonnerre vient. Donc on voit que le chérubin va parler. Tiens, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. On avait vu que les chérubins gardaient l'intégrité de Dieu, mais même un chérubin va parler à un homme.
Ngombona urumva arabona arerekwa umwagazi w'intama amena kamwe muri twadushasharandwe tumata n'igicagitabo numva kimwe muri bya binyabugingo umukerubi bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kitingwino.
Il disait, je regardais, voici un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur pour vaincre.
Ngombona ifarasi y'igitare kandi uyicaye ko yarafise umuheto ahabwe igitsibo agenda nesha kandi ngo yamaneshe.
Alors, on remarque une chose. C'est que tous les sceaux qu'on va voir ici, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des hommes ou du diable. Ce sont des jugements. Je vous ai dit, une fois que l'Église sera enlevée, la tribulation, c'est récupérer la gestion des systèmes de ce monde et détruire les systèmes politiques, économiques et sociaux de ce monde qui sont liés avec les puissances sataniques.
Et
nous savons, ça c'est la conséquence de la chute.
Donc
Dieu va envoyer des jugements sur la terre. Le livre qui est scellé des sceaux, c'est bien un livre divin. Celui qui est digne d'ouvrir les sceaux, il s'appelle Jésus. C'est marqué dans le ciel. C'est prévu à un jour J, un temps T particulier, qui est un temps divin. Donc tout ce que nous allons voir ici est l'œuvre de Dieu. Et là, j'aimerais vraiment vous faire comprendre quelque chose. Parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion. On entend des fois des choses innommables. Dans l'histoire de l'humanité, Dieu a envoyé des jugements contre des nations. Parfois même juste contre une armée quand elle essayait de faire du mal à Israël. Une seule fois, Dieu a envoyé un jugement mondial. Alors je vais vous expliquer. Après, je vais vous dire à propos du temps de l'Église dans lequel nous sommes. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de confusion. Les gens comprennent très peu de choses par rapport à ça. Ils mélangent tout. Par exemple, le déluge. Le déluge, nous le savons, c'est dans le livre de la Genèse. Le déluge, c'est bien quelque chose que Dieu avait prévu d'avance pour juger les hommes. J'avais ma référence sur le déluge, on va le retrouver, c'est dans Genèse. Dieu commence à en parler. Dieu voit le cœur mauvais des hommes. Et à partir du chapitre 6, comme il voit que les hommes ont un cœur qui est mauvais, Dieu va dire la chose suivante. Chapitre 6, verset 6. Regardons ensemble. Dieu voit que l'homme est mauvais. Et il dit, l'Éternel se repentit. Alors quand vous voyez se repentir, ce n'est pas de se repentir de ses péchés. D'accord ? Quand il est dit, l'Éternel se repentit. C'est-à-dire qu'il a changé sa façon de voir les choses à cause des hommes. J'aime pas trop quand on traduit par se repentir parce que franchement ça nous met dans la confusion. Donc d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai. C'est lui là. C'est bien lui, on est d'accord. C'est une décision divine. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, etc., etc.
Ngo bimutera intuntu mu mutima bitera intuntu mu mutima uhoraho ngo uhoraho aravuga atabantu naremye nzobamara ni uhoraho avuze ati nzobamara mwisi uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere.
Dieu va trouver une famille qui le sert, c'est la famille de Noé.
Hagataho Imana ibona umuryango uyikunda uyikorera.
Dieu va parler à Noé. Noé va faire son arche,
Noah,
son bateau.
Ategura ubwato
bwiwe, écouter les ordres de Dieu.
Yumviriza amategeko.
Et il va échapper au jugement. Vous êtes d'accord?
Imana maze arashobora guhunga ugo rubanza.
Le jugement était bien un jugement sur toute la terre.
Ariko ugo rubanza
sur le monde entier.
Kwisi yose,
ordonné par Dieu.
Rutegetswe n'Imana.
Et c'était la conséquence de la désobéissance de l'homme.
Kandi yarunga yari ngaruka yukutumvira kumwana w'umuntu.
C'était un jugement de Dieu.
Gwaru rubanza gw'Imana.
Il voulait éradiquer.
Yagomba gukuraho
tous les hommes,
abantu bose,
parce que la grande majorité à l'époque, à cette époque des hommes,
kuko abantu benshi cyane icyo gihe,
c'était un peu plus de 2 siècles et demi après la création d'Adam et Ève.
Yari nk'imyaka nk'amajana atatu nyuma yo kuza kwa Adam na Eve.
Combien y avait-il d'hommes sur la terre? Certainement quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers, quelques millions, on ne sait pas.
Mais
aucun servait le Seigneur.
Ils faisaient
de la sorcellerie et d'autres choses que la Bible ne nous dit pas ici. Mais Dieu a été radical. On ne sait pas ce que Dieu a effacé, parce qu'il y avait d'autres choses, mais on ne sait pas exactement. Il y aurait quelques commentaires à faire là-dessus, mais ce n'est pas mon sujet. Là, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que Dieu va juger la terre. Là, on est avant Abraham. Le peuple d'Israël n'existe pas encore. Mais Dieu envoie un jugement sur la terre. Alors, maintenant, on a d'autres exemples. Par exemple, si vous prenez, on connaît tous cet exemple-là, cette histoire, c'est quand Dieu va juger
Pharaon.
Dieu va juger la nation la plus puissante du monde. Dieu a pris un instrument, qui était Moïse, et il a été voir Pharaon. L'homme le plus puissant du monde de l'époque. Nous sommes environ 1500 ans avant Jésus. Et là, Dieu va juger l'Égypte. Il envoie des plaies. Et très sérieuses. Ce sont des miracles divins de jugement. Opérés par ses anges. Les anges de Dieu vont venir. Et ils vont frapper la nation la plus puissante du monde. Et ils vont même détruire l'armée la plus puissante du monde. Qui a ouvert la mer morte? Qui a ouvert la mer morte? La mer rouge, pardon. Merci, heureusement qu'il en connaît plus que moi maintenant. Donc, Dieu va ouvrir la mer rouge. Le peuple d'Israël passe tranquille. Et l'armée des Égyptiens continue à les poursuivre. Et Dieu noie cette armée. C'est bien un jugement de Dieu. On est bien d'accord. Dans l'histoire d'Israël, vous avez plusieurs fois l'armée d'Israël dont le roi a consulté Dieu, qui a une parole d'un prophète
et
qui le prophète dit, voilà, vous devez faire ça. Et Dieu va confondre l'armée ennemis. Lisez l'histoire des rois d'Israël. Vous verrez qu'à plusieurs reprises, Dieu va confondre l'armée ennemie. Dieu va des fois envoyer une terreur contre l'armée ennemie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir peur, une peur surnaturelle. Et ils vont fuir. Il y a des fois où même ils vont se retourner surnaturellement l'un contre l'autre. Lisez l'écriture. Et là, nous voyons vraiment des jugements de Dieu contre des peuples. Contre des peuples qui veulent nuire à son peuple. Donc, ça c'est très clair. Avant la loi de Moïse, depuis la création d'Adam et Ève, après la chute, jusque au temps de l'Église, vous allez voir que Dieu va juger des nations et même toute la terre entière avec le déluge. C'est la seule fois où Dieu va faire ça sur toute la terre entière.
Ça,
ce sont des purs jugements de Dieu.
Des
interventions de Dieu au travers de ses anges qui viennent frapper. Frapper. Ça, c'est très clair. Maintenant, dans le temps de la grâce dans lequel nous sommes, pour l'instant, depuis 2000 ans, ce n'est plus le cas.
Ça,
il faut bien que vous le compreniez dans l'Écriture. Dans le temps de la grâce, Dieu ne juge absolument aucune nation. Vous ne trouverez rien dans les actes des apôtres où Dieu va juger des nations. Je suis désolé, mais vous n'en trouverez pas. Vous
ne
trouverez aucune doctrine qui dit que Dieu va juger un pays ou un autre pays dans le temps de la grâce. Cherchez la doctrine de l'Église. Vous ne verrez pas Dieu dire voilà, s'il y a tel ou tel roi ou empereur qui fait quoi que ce soit, je jugerai sa nation contre vous. Non, pourquoi? Parce que nous sommes disséminés sur toute la terre. Et Dieu a racheté des gens de toute langue, de tout peuple, de toute ethnie, de toute nation, etc.
etc.
C'est le temps de la grâce. Donc ne dites jamais Dieu a envoyé un jugement ou quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez aujourd'hui de malheur, c'est le diable. Ce sont des puissances sataniques qui veulent détruire un maximum d'êtres humains pour qu'ils partent en enfer. Les guerres sont des œuvres sataniques. Toutes les injustices que vous voyez, c'est la conséquence des œuvres sataniques. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui et depuis 2000 ans. Dieu n'intervient plus dans les nations pour l'instant parce que c'est le temps de la grâce. Il gracie même le pire des pécheurs.
Et
il ne juge pas les nations et il n'a pas d'alliance avec des nations. Je fais cette précision parce que c'est souvent la confusion. Moi, je me souviens, les gens qui nous ont amenés au Seigneur, ils nous faisaient peur avec ces histoires-là. Quand il y avait des inondations quelque part en France, ils disaient, ah, ça c'est le Seigneur, ça c'est pour que les gens soient amenés à la repentance. Et on avait une image de Dieu qui en fait était le Dieu qui amenait toutes les catastrophes. Après, les gens vont dire, mais les famines, ça vient de Dieu alors. Les guerres, ça vient de Dieu. Les problèmes que nous connaissons viennent de Dieu alors. Et alors, les gens prient comme Job. Dans son ignorance et parfois même, je dirais, sa stupidité. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et après, les gens acceptent tout et n'importe quoi, alors que c'est l'ennemi qui leur fait des sales coups. Ou ce sont les circonstances qu'ils ont déclenchées qui sont mauvaises. Mais Dieu ne juge pas les nations aujourd'hui. Tant que nous sommes dans ce temps, cette dispensation du mystère, la dispensation de la grâce. Avant la résurrection de Jésus, oui. Le jour où l'Église de Dieu sera enlevée, oui. Encore pour les 7 dernières années. Oui. Mais dans le temps de la grâce, non, vous ne verrez pas de doctrine de l'Église qui parle de ça. Cherchez dans les épîtres, cherchez partout, vous n'en trouverez pas. Donc je tiens à faire vraiment cette précision parce que c'est souvent une confusion. Aujourd'hui, Dieu n'envoie aucun jugement sur la terre jusqu'à temps que sa bien-aimée, son épouse, soit enlevée, l'Église. Et là justement, quand vous regardons le début de la tribulation, c'est l'œuvre de Dieu. Je vous rappelle que la pensée de Dieu, c'est de dire au début de la tribulation, je vous ai donné à vous les hommes toutes les chances de vous donner à moi.
akajyo kose ko
kunyizera de pouvoir recevoir ma grâce et mon amour
akajyo ko kwakira ubuntu bwanje n'urukundo rwanje
je vous ai montré que je suis un dieu d'amour
naberetse ko ndi imana
y'urukundo vous m'avez craché dessus
mwaranciriye kwa
mate vous avez dit n'importe quoi sur moi
mwamvuze ko
ibitandukanye vous êtes moqué de moi
mwaranduye
vous avez même jusqu'à persécuter ceux qui m'appartiennent. Vous les avez empêchés de pouvoir avancer. Vous avez tout fait pour aller en l'encontre de mon royaume. Mais c'est ma propriété. Et je vais la récupérer. Et c'est là où Dieu va récupérer sa propriété. Et c'est comme cela que Dieu va faire. Donc maintenant, vous avez un peu mieux compris. Ce que je vous dis, par rapport au jugement divin, les gens comprennent très rarement les choses. Tant que nous sommes sur la grâce, il n'y a pas de jugement divin. Mais quand l'Église sera enlevée, que la 70e semaine d'année de Daniel, la dernière donc, les 7 ans qui doivent encore se produire jusqu'à la fin de toute chose, eh bien, quand ça va se redéclencher, donc avec le signe de l'enlèvement de l'Église, là, Dieu va venir juger la terre. Et là, les hommes vont savoir qui est le Dieu de colère. Quand Dieu est en colère, ils vont vraiment le savoir. Et c'est là où ça commence. Donc ici, il est dit, je regardais par un cheval blanc, celui qu'il montait avec avait un arc et une couronne, etc. etc. Nous avons lu là, il est parti pour vaincre.
Baravuga ku murongo wa mbere ngo mbono murongo wa kabiri mboni farasi y'igitare kandi uyicaye ko yarafise umuheto ahabwe igitsibo agenda nesha kandi ngo yame anesha.
Alors d'abord c'est quelque chose d'assez intéressant.
Ikirano ni kintu bavuga kiryoshe kuraba
parce que Jean voit un cheval.
Yohana abonye farasi.
Y a-t-il des animaux dans le ciel?
Mbega aho bari ibikoko mwijuru?
Bah en tout cas plusieurs fois.
Kenshi
la Bible va nous montrer le cheval. Ça ne veut pas dire qu'un animal qui meurt va au ciel. Je n'ai pas dit ça. Vous savez, il y a des chrétiens américains comme ça, vous savez, des dames riches qui ont des jolis petits animaux.
Et
il y a certains prédicateurs qui leur ont dit, oui, ton animal ira au ciel. Non, les animaux ne vont pas au ciel. Nous le savons, ils sont âme plus corps. Et ils cessent d'exister après. Mais Jean voit un cheval. Et plusieurs fois nous allons le voir d'ailleurs. Alors maintenant c'est une question qui peut rester en suspens. En tout cas, certains disent maintenant je n'ai pas de texte pour appuyer ça. Donc je ne ferai jamais une doctrine sur un témoignage.
Mais
certains ont dit qu'ils avaient vu un ou deux types qui ressemblaient à des animaux dans le ciel. Je ne fais aucune doctrine là-dessus. Pourtant, des prédicateurs dignes de foi. Donc, je ne remets pas en question leur témoignage, mais on n'a pas de verset biblique qui appuie ça.
Alors,
ici, il est dit, celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Alors, j'ai lu plusieurs commentaires sur ce verset. Et il y a vraiment deux types de commentaires, et d'ailleurs, je crois que ni l'un ni l'autre sont justes. Où on a dit, c'est Jésus qui est sur le cheval pour aller prêcher l'évangile qui va pour faire annoncer l'évangile sur toute la terre. Et ça n'a rien à voir avec ça. Parce que Jésus n'a pas reçu une couronne quand il est quand il est ressuscité d'entre les morts. Dans le sens de partir pour vaincre, ça n'a aucun sens. Alors il y en a d'autres qui ont dit non, c'est une sorte de séducteur, un faux Christ. Mais là, je
ne
vois pas l'explication non plus, puisque ça, c'est une initiative de Dieu. Donc ici, il
n'y
a pas d'histoire de diable ou de démon. C'est un jugement qui va s'opérer.
Ni urubanza Imana irungitse yonyene.
Moi je pense qu'il y a une explication beaucoup plus simple.
Nubaza ko hari insobanuro novuga yoroshe.
C'est simplement pour dire
gusa ni kuvuga
les choses sont déclenchées maintenant.
Ngo ibintu rero biratanguye
mwanya. La victoire est assurée.
Intsinzi irahari.
Et l'idée du cheval qui part et qui part en courant. C'est l'idée que les choses maintenant sont mises en place, que la tribulation est déclenchée et que la victoire de Christ est irrévocable. Pour moi, je ne vois pas d'autres explications. On n'a pas besoin de savoir qui était sur le cheval parce que la Bible ne dit rien là-dessus. Par contre, on voit quelque chose qui va partir, quelqu'un qui part sur un cheval et qui va vite, qui est déterminé et dont la victoire est assurée. Donc pour moi, c'est clair que ça, ça veut dire, voilà, il y a le début et personne n'arrêtera ce qui va se passer maintenant. La victoire de Dieu est assurée. Les temps sont arrêtés et c'est terminé. Et c'est ça que ce sceau veut dire. C'est clair. Les choses sont bien enclenchées. C'est arrêté d'avance. Ça s'accomplira dans les 7 années. Et il
n'y
a personne qui pourra arrêter ça. Voilà le premier saut. Le deuxième saut, le premier étant les jugements de Dieu sont arrêtés et il n'y a personne qui pourra changer
ça.
Au verset 3, il est dit: quand il ouvrit le second sceau, j'entendis un second être vivant dire « Viens !» Donc un chérubin qui lui dit « Viens !» Et alors, là, en fait, on va commencer à parler de guerre. Il y a quelqu'un qui le monte et qui a le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fût donnée.
Ngo haza iyindi farasi y'akagajo uyicaye ko ahabwa gukura amahoro mwisi ngo bicane kandi ahabwa inkota ndende.
Et ça paraît évident ici.
Ahabiraboneka neza rero.
Vous savez, souvent les gens parlent de troisième guerre mondiale.
Abantu kenshi bahora bavuga intambara ya gatatu y'isi yose.
Et là, on voit qu'il va y avoir des nations qui vont finalement se lever les unes contre les autres.
Aha turabona ko amahanga zo haguruka agwane hagati yayo.
Et il n'y aura pas de paix sur la terre. Les gens vont se battre. Rappelez-vous, l'enlèvement vient d'arriver. Supposons que 500 millions de personnes disparaissent. Tous les chrétiens, et on sait que c'est les chrétiens. Tous ceux qui annonçaient que Jésus allait revenir ont disparu en un clin d'œil. Supposons 500 000 tombes qui se sont aussi ouvertes. Le monde est complètement retourné. Et d'un seul coup, il y a du désordre. Rappelez-vous d'une chose. Nous, l'Église de Dieu, nous sommes des ouvriers de paix sur cette terre. Je vous garantis, quand l'Église n'est plus là, quand la prière des saints n'est plus là, ce monde est livré à lui-même. Complètement. Et là, Dieu va faire souffler un vent de discorde entre les gens, entre les leaders des nations. La confusion va régner. On a du mal à s'imaginer un peu la confusion qui va régner. Mais là, il va y avoir des guerres partout. Et Jésus en a parlé, et c'est là qu'on va faire un petit tour dans Matthieu 24. Parce que la Bible va nous parler de certains événements. Donc, la tribulation, c'est vraiment une œuvre de Dieu. La tribulation n'est pas une œuvre du diable. Dieu a prophétisé ce que le diable allait faire contre lui, contre son peuple qui sera sur la terre. Des gens vont se convertir, comme nous allons le voir. Satan va tout faire pour éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre, pour que personne ne se convertisse. Parce que quand l'Église va être enlevée, il va y avoir deux réactions de la part des humains qui vont rester, des inconvertis. Certains vont vraiment, vraiment, vraiment se repentir très sérieusement. Ça, c'est la première réaction qu'il va y avoir. Beaucoup de gens qui vont se donner au Seigneur. Qui vont chercher partout où on aura laissé notre Bible. Celui qui est peut-être de ta famille qui t'aura craché à la figure. Parce que tu lui auras parlé de Jésus. Il va courir chercher la Bible. Il va dire, pourquoi est-ce qu'il ne m'en a pas dit plus alors que tu leur as tout dit? Les gens vont réagir par peur. Et cette peur va certains les amener à la repentance. Et d'autres vont réagir complètement autrement. Ils vont commencer à se dire, ces chrétiens-là et leurs histoires de Dieu, on va se liguer contre ça. Ils vont réagir très négativement contre tout ce qui est christianisme. Donc il va y avoir deux fronts qui vont venir. Le premier groupe de gens qui vont regretter de ne pas avoir donné leur vie à Jésus, se dire, mais ces chrétiens avaient raison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils t'avaient dit à cette époque-là? Où sont leurs Bibles? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut entendre à propos de ça? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour donner sa vie à Jésus? Parce qu'ils avaient raison. Ils nous l'avaient dit à l'avance. Et l'autre groupe, qui lui va commencer à monter et à être rempli d'esprit satanique. Il va y avoir vraiment les deux extrêmes. Comme nous allons le voir dans quelques minutes. Alors, le mot tribulation, parce qu'on parle de ce mot, ça veut dire une tribulation, une affliction, ça veut dire tourment, détresse,
agahinda,
souffrance,
kumeregwa, kubabara,
persécution,
guhamwa,
calamité.
Hamwe nibibazo bikomeye amakuba amasanganya atandukanye.
Et ce mot tribulation, vous le retrouverez à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament.
Iri jambo guhamwa urabibona kenshi mu isezerano rishasha.
Mais il s'applique aussi à un temps particulier.
Ariko kandi ni jambo rivugwa mu gihe kicihareje.
Jésus dira par exemple, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Les tribulations, c'est des souffrances. Des moments difficiles par lesquels tu peux passer. Mais il y a l'expression la tribulation qui est le plus réservée pour ce temps spécifique dont nous parlons. Alors dans Matthieu 24, Jésus va nous donner une image globale de la tribulation. Parce que là, dans l'Apocalypse, on va aller dans des détails et des détails et des détails. Donc c'est pour ça que ce qui est bien, c'est qu'on a aussi ce texte de Matthieu 24 qui nous donne un certain nombre d'informations sur ce qui va se passer pendant la tribulation et que nous allons retrouver tout à fait dans l'Apocalypse, mais avec tellement plus de détails. Alors Matthieu 24 a été très très mal compris par beaucoup de prédicateurs et beaucoup de chrétiens. Et ça, c'est un problème. Parce que très, très souvent, les gens prennent des versets et nous les balancent comme ça à nous, l'Église. Ils interprètent les informations n'importe comment, les informations du monde. Alors que ça n'a rien à voir, nous ne sommes pas dans ce temps-là. Et vous pourrez regarder, étudier l'histoire. Et plusieurs fois dans l'histoire, il y a des gens qui ont essayé d'interpréter les temps de la fin. Et particulièrement, c'est la tribulation. Et ça n'a amené que des déboires, que des problèmes à l'Église. Donc au verset 1 de Matthieu 24, Jésus va faire certaines choses. Il est dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc ils sont à Jérusalem, ils regardent le temple de Jérusalem. Alors le temple de Jérusalem, à l'époque de Jésus, avait été un temple qui avait été reconstruit sur les ruines du temple de Salomon. Salomon, le fils de David, avait eu pour instruction et pour mission de construire le temple de Dieu. Le roi David, qui a vécu au 10e siècle avant Jésus, qui avait servi le Seigneur, à un moment s'est posé une question. Il s'est dit, moi je vis dans un beau palais, et Dieu vit dans une tente. C'est-à-dire l'arche de l'Alliance. Et la tente qu'il y avait autour.
Alors,
ce que David voulait faire, il avait dit au Seigneur, Seigneur, moi je veux te construire une maison, je veux te construire un temple. Et Dieu lui a dit non, parce que tu as trop de sang sur les mains. David était un homme de guerre, après c'était un homme de pacifique, mais il avait dû vraiment faire beaucoup de guerre contre les ennemis. Et Dieu lui a dit, c'est ton fils qui construira ce temple. Effectivement, au 9e siècle, avant Jésus, Salomon va construire le temple. Mais le peuple d'Israël va beaucoup désobéir. Et au 6e siècle, avant Jésus, eh bien, il va y avoir le roi Nabuchodonosor, le roi babylonien. Vous vous rappelez de Daniel, chapitre 2. La statue. C'était au temps du roi Nabuchodonosor. Et le haut de la statue, la tête en or, Dieu lui dit clairement que c'est Nabuchodonosor, l'empire babylonien. Et Nabuchodonosor, au 6e siècle avant Jésus, va détruire le temple de Salomon, donc le temple de Jérusalem. Il va détruire aussi les murailles. Et c'est seulement plus d'un siècle plus tard que le temple sera reconstruit par Esdras. Et donc vous lirez ça dans le livre d'Esdras. Et Néhémie, lui va reconstruire les murailles. Vous voyez, la Bible, c'est simple quand on a quelques éléments. Parce que c'est sûr que si vous lisez le livre d'Esdras sans comprendre tout ça, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Et c'est normal. Donc, au 6e siècle, et 5e siècle, le temple est reconstruit, les murailles sont finies.
Et
après, il y a eu encore des plus ou moins des destructions, etc. Et finalement, il y a eu un roi quelques dizaines d'années avant la venue de Jésus, qui lui a reconstruit une partie d'ailleurs du temple. Et ce temple, donc, dans lequel Jésus a été plusieurs fois, où les Juifs aussi se trouvaient, eh bien, c'est de ce temple dont on parle ici. Et ils sont en train de regarder ce temple qui avait été reconstruit, re-reconstruit, on peut dire. Et il va y avoir un commentaire, verset 2. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, vous voyez ce temple. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Là, les disciples vont poser trois questions.
Warababwira ati ntimubona ibyo byose ndababwira ukuri aha nti hazosigazwa ibuye rigeretse kuri indi ridasamburiwe hasi yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa be baramwegera bihereranye baramubaza bati tubwire ibyo bizobaho byari ikimenyetso kizoba ico kizoba ikicukuza kwawe n'ico muhero wisi ibibazo bitatu.
Alors ici il y a bien trois questions.
Ari bibazo abajijwe bitatu.
La première question,
icambere,
c'est quand cela arrivera-t-il? C'est quoi ce qui va arriver? c'est que le temple sera démoli, détruit. Nous allons voir où on trouve la réponse dans l'écriture. Ensuite, la deuxième chose, quel sera le signe de ton avènement? Donc de ta venue, de ton retour. Mais rappelez-vous d'une chose. Nous sommes dans les évangiles. Les Israélites, dont les disciples d'ailleurs, n'avaient que les prophéties qui concernaient leur nation. Dans aucune de ces prophéties, rappelez-vous bien, eux, ils vivaient avec les prophéties de l'Ancien Testament. C'est toute la connaissance qu'ils avaient. Ils n'avaient pas la révélation sur ce temps de l'Église. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début des Actes des Apôtres, les disciples ont posé des questions à Jésus. Quand est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que tu vas régner? Parce qu'ils savaient qu'eux, ils allaient aussi régner quelque part. Quand est-ce que tu prends le poste? Nous aussi, on sera juste à côté de toi, Seigneur. Et Jésus va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les moments et les temps que le Père a fixés. Mais dans leur question, c'était toujours selon les prophéties qu'ils avaient. Pour eux, les prophéties, c'était les prophéties de Daniel, entre autres. Dans les prophéties de Daniel, c'était le Messie va être retranché. Après, il va y avoir beaucoup de mouvements, de tribulations sur la terre. Et après, on va régner. Mais Jésus leur disait, moi je vais partir. Alors eux, ils disaient, quand est-ce que tu reviens? Mais pour eux, c'était quand est-ce que tu reviens pour régner à Jérusalem, c'est-à-dire quand est-ce qu'on rentre dans le millénium. Eux ne connaissaient pas le temps de l'Église, ils n'avaient pas encore compris. Donc ils ne savaient pas non plus qu'il allait y avoir l'enlèvement de l'Église. Ce n'était pas un mystère qui était encore révélé, une connaissance qui était révélée. Ça, ça a été révélé au travers entre autres de Paul.
C'est
Paul qui a reçu cette révélation. Du mystère de l'Église et du mystère de l'enlèvement. On l'a vu dans 1 Thessalonicien. Donc quand les disciples dans Matthieu 24 posent ces questions-là, pour eux, ils ne savent pas qu'il y aura un enlèvement. Ils ne savent pas donc que Jésus va revenir deux fois. Ils ne savent qu'une chose. C'est que ce Jésus, c'est bien le Messie, ça ils le savent. Et ils savent que le Messie doit être roi. Qui doit régner à Jérusalem. Et Jésus vient de leur dire, mais Seigneur, tu viens de nous dire là à l'instant que le temple va être détruit. Donc, normalement, on sait que le Messie va régner dans le temple. Là, on ne comprend plus très bien. Donc, ça va arriver quand ça va être démoli, tout ça? Quand est-ce que tu vas revenir? Puisque tu vas partir, tu nous l'as dit. Rappelez-vous. Jésus leur dit qu'il allait partir, qu'il allait revenir. L'évangile de Jean, entre autres. À la fin de l'évangile de Jean, à partir de Jean 14. Mais, et aussi la fin du monde. Seigneur, on sait qu'il va y avoir la fin des temps. On connaît les prophéties de Daniel. Mais eux, ils voyaient seulement la révélation de l'Ancien Testament pour le peuple juif. Et Jésus va leur répondre avec cette perspective-là. Alors d'abord, la première question, quand cela va-t-il arriver? C'est-à-dire, quand est-ce que le temple va être détruit? Et ça ne concerne absolument pas du tout quand Jésus va revenir pour Israël à la fin de la tribulation. Israël va être complètement par terre, va être au bord du gouffre. À la fin de la tribulation, en aucun cas, le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple à Jérusalem, mais on va voir pourquoi. Les Juifs vont reconstruire un temple, c'est sûr. Le jour où vous allez voir qu'ils vont commencer à reconstruire, là vous allez vous poser des questions. Parce que la Bible nous parle qu'à la fin de la tribulation, il y aura un temple.
à Jérusalem.
D'ailleurs, l'Antichrist va régner de là.
Vous
voyez, aujourd'hui, l'Antichrist ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas de temple à Jérusalem.
Vous allez me dire,
ah, on peut en construire un en quelques années. Oui, d'accord.
Mais
pour l'instant, ce n'est pas encore complètement d'actualité chez les Juifs. Ça commence à devenir,
d'ailleurs.
Donc, l'Antichrist ne peut pas apparaître aujourd'hui parce que, de toute façon, il n'y a pas de temple. Et quand il va apparaître, c'est qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se produire tout autour.
On va en
parler, justement. Il faut comprendre ce qui va se passer.
Donc, à
la fin de la tribulation, nulle part la Bible dit que le temple de Jérusalem va être détruit. Alors pourtant Jésus là nous parle d'un temple qui va être détruit. Et bien nous allons trouver la réponse dans l'évangile de Luc. Et je vais vous montrer de quoi Jésus veut-il parler ici. Dans Luc chapitre 21, Jésus va donner la réponse.
Yesu aratanga inyishu.
Si vous étudiez les évangiles en parallèle,
usomye ubutumwa bwiza
ukabugeranya, les trois premiers évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui se ressemblent, c'est ça que ça veut dire,
ukasoma ubutumwa butatu bwa mbere busa ukwemwe
Yohana. Jésus va parler de la fin des temps dans les trois évangiles. Ces trois évangiles, les trois premiers.
Yesu aravuga ku bihe bya nyuma muri bibi muri ubu butumwa bwa butatu muri z'évangiles
tatu zambere. Mais c'est surtout les deux premiers où il en parle le plus.
Ariko izi zibiri za mbere cyane cyane ni habivuga cyane.
Et concernant Matthieu, l'évangile de Matthieu s'adresse aux Juifs. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'évangile de Matthieu, vous avez plein de notions, de mots. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Israël, on parle beaucoup de personnages de l'Ancien Testament. On parle aussi du prophète
Daniel.
Et c'est volontaire parce que ça s'adresse à des Juifs qui sont supposés connaître la loi et les prophètes.
Et Matthieu
24 va nous parler de la tribulation avec la perspective du peuple d'Israël uniquement. L'évangile de Luc a été écrit pour les païens. Pour les non-juifs. Donc, de toute façon, la perspective ici concerne quelque chose de plus particulier à propos des païens. Les païens qui vont se convertir, bien sûr. Luc chapitre 21, au verset 20, il est dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie, votre génération verra Jérusalem investie par les armées, alors sachez que sa désolation est proche. Il est dit, alors ceux qui seront en Judée fuient les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. Car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes ces jours-là. Et il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et là, nous avons la réponse. Tu peux lire juste le verset 20 et le verset 24, c'est le plus significatif.
Ariko nimwabone Yerusalemu hakikijwe n'ibitero, muze mumenye yuko ubuyobe bwaho bugira bushike, ico gihe abazoba bari Yudaya baze bahungire ku misozi miremire, kandi abazoba bari hagati muri Yerusalemu baze bahasokoroke, kandi abazoba bari mu misozi ntibaze baje Yerusalemu, kuko iyo minsi izoba iyo guhora kugira ngo ivyanditswe byose bishike muri iyo minsi. Abazoba batwaye inda nabonsa bazobona ibara, kuko hazoba umubabaro mwinshi mu gihugu, kandi uburake buzoba kuri ubwo bwoko. Bazokwicwa n'ubugi bw'inkota, bazojanwa mu mahanga yose ari nyagano, kandi Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza ibihe by'abanyamahanga bizoshirira.
Et en fait, ici Jésus nous explique ni plus ni moins.
Aha Yesu rero ariko arasobanura
que le temple sera détruit.
Yuko urusengero ruzosambuka
par l'armée romaine. C'est exactement ce qui s'est passé. La première question de Matthieu 24, Quand Jésus leur a dit, vous ne verrez plus pierre sur pierre de ce temple, ne concerne pas la tribulation, mais ni plus ni moins, le fait qu'il va y avoir le temps de l'Église, et en 70 après
Jésus-Christ,
c'est-à-dire même pas 40 ans après que Jésus ait prononcé cette parole, il n'y aura plus pierre sur pierre, c'est-à-dire que ce temple sera détruit. Ça va s'accomplir. Si vous étudiez l'histoire d'Israël après le, donc dans l'histoire du premier siècle après Jésus, en l'an 70 après Jésus, donc environ un peu moins de 40 ans, 37 ans après que Jésus soit reparti au ciel, eh bien les Romains vont détruire le temple de Jérusalem et vont détruire Jérusalem. Et la première question, quand le temple va être détruit, c'est la réponse est là. Ça s'est déjà produit. Les Juifs, à cette époque-là, avaient des ambitions de reprendre la destinée de leur nation. Et ils ont commencé à monter des milices et des armées. Rappelez-vous que tout l'Empire romain, c'était quoi? C'était l'Europe du Sud, c'était tout le Moyen-Orient, dont Israël, la Palestine. Et le nord de l'Afrique. Donc tout ce qui est autour de la mer Méditerranée, si vous préférez, en simplifiant les choses. Donc les Romains étaient l'armée d'occupation en Palestine. Donc ils étaient, les Juifs étaient sous les Romains, sous l'occupation romaine. Et à cette époque-là, ils ont voulu se révolter. Et ils ont pensé que Dieu allait les aider et les délivrer d'une façon surnaturelle, comme on a l'habitude de le voir, enfin ils avaient l'habitude de le voir dans l'Ancien Testament. Mais là nous n'étions plus dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Nous étions entrés dans la Nouvelle Alliance depuis une quarantaine d'années, un peu moins. Et Dieu n'est pas venu à leur secours, au contraire. Et Jésus dit ici, fuyez. Fuyez. Et il est dit que quand les Romains sont venus, parce que les Israélites se sont rebellés contre les Romains, les Romains qui étaient l'armée la plus puissante du monde de l'époque, ils ont écrasé cette rébellion. Les Juifs n'ont pas du tout vu le secours de la main de Dieu. Il y a eu des prophéties pour les gens, les chrétiens qui étaient à Jérusalem. Et l'histoire de l'Église nous dit que très peu de chrétiens sont morts lorsque les Romains ont pris et ont brûlé Jérusalem, ont détruit Jérusalem et le temple. Parce que beaucoup ont écouté les prophéties en leur disant qu'un danger imminent allait arriver, la destruction allait arriver, qu'il fallait qu'ils fuient. Et ils ont obéi à l'ordre de Jésus ici. Ne pas aller en ville, mais de fuir. Et ceux qui ont fui ont été épargnés. Ceux qui n'ont pas fui sont morts. Ce que Jésus dit dans cette première partie de Matthieu 24, c'est que le temple sera détruit. Nous en avons la réponse dans Luc chapitre 20. Et ça s'est passé en l'an 70 après Jésus. C'est vrai que les Juifs étaient très maltraités à ce moment-là par les Romains. Ils souffraient beaucoup. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles ils voulaient se révolter. Ils se sont révoltés. Mais ils ont été massacrés. Et Israël n'était plus une nation depuis l'an 70 jusqu'en 1948. Et ceux qui parlaient des prophéties de la fin des temps avant 1948, eh bien, ils se retrouvaient complètement bloqués parce qu'Israël est en existence quand on parle des prophéties de la fin des temps.
baca baratangara kubera yuko Israeli nihivugwa iyo bariko baravuga.
Donc jusqu'en 1948, il ne pouvait rien se passer concernant les prophéties de la fin des temps, c'est-à-dire de la tribulation.
Puisqu'Israël
n'était plus une nation. Dirigé par son peuple. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
avec
tout ce que les Allemands ont fait contre les Juifs, toute l'extermination, l'Holocauste, le peuple juif était vraiment désespéré. Et ils sont repartis en
Palestine.
Et quelques années plus tard, en 1948, les Nations Unies ont reconnu Israël à nouveau comme une nation. Ça a été un signe gigantesque pour les prophéties de la fin des temps. Et après, des chrétiens ont spéculé en disant « Ah, Jésus a parlé d'une ou deux générations, donc Jésus va revenir ». C'est pourquoi ils ont compté une génération 40 ans, je ne sais pas pourquoi, et surtout les Américains. Et en 1988, il y a beaucoup de prédicateurs américains qui ont dit, nous prophétisons, c'est l'année où Jésus va revenir. Et alors, il y a eu des chrétiens, des petits malins qui se sont fait rattraper par leur chair, qui ont fait des crédits à la banque. C'est vrai ce que je vous dis en plus. Comme ça, ils se sont dit, l'année prochaine ou dans deux ans, je vous dis une chose réelle. Il y en a certains même qui ont mis dans les journaux la date où Jésus allait revenir en
88.
Vous voyez comme les chrétiens sont charnels parfois.
Alors,
il y a des choses qui nous sont révélées dans la fin des temps. Il faut vraiment les prendre avec précaution et regarder exactement ce que ça veut dire.
Parce qu'on
a entendu et on entend encore toutes sortes de choses. Si vous allez sur Internet, vous allez voir n'importe quoi et tout en général. Quelques bons enseignements, mais il faut savoir trier.
Voilà.
Donc la semaine prochaine, nous continuerons sur l'étude de Matthieu 24.
Et
je vais vous montrer que Jésus va nous donner toutes les grandes lignes de ce qui va se passer dans la tribulation. Et nous aurons beaucoup plus de précision au travers justement de l'étude que nous faisons dans l'Apocalypse. C'est très simple, mais il faut en avoir les fondations. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.